5, 4, 3, 2, unité, top.
Chaque semaine dans l'auberge espagnole, on reçoit...
Tout y passe et tous y passent.
Guillaume, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à toutes et à tous.
Alors effectivement, je t'ai invité parce que j'ai trouvé surprenant et anachronique et inhabituel qu'un concert de jazz se déroule dans un salon de coiffure. Peux-tu m'expliquer rapidement la raison de cette volonté qui est tout à fait inhabituelle? Est-ce un fantasme? Est-ce un rêve d'enfant? Ou est-ce, comme je l'ai dit dans le titre, pour faire le buzz?
Alors... On va dire un mélange de tout, c'est-à-dire que je fais pas partie des gens et mon associé non plus qui aiment faire les choses comme les autres, parce que je trouve ça assez inintéressant. On aime faire des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui nous ressemblent, c'est-à-dire qu'on fait partie des gens qui aiment l'imprévu, qui aiment les programmes un peu décalés. Et là, Isabelle Olivier, effectivement, c'est une relation en plus particulière qui s'est installée depuis maintenant 4 ans avec Isabelle. Et du coup, on a essayé de mêler cette activité de coiffure. On essaye de faire des choses, des expos, des soirées, enfin, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et des choses qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les grands rassemblements, on n'aime pas aller là où tout le monde va. Donc, on aime bien que les gens puissent faire comme nous et puissent aller là où tout le monde ne va pas et pouvoir avoir accès à des choses qu'on ne peut pas faire en temps normal.
Donc, c'est effectivement une démarche inhabituelle. On va quand même expliquer que la prestation s'est déroulée samedi. On va indiquer quand même le lieu parce que, évidemment, un salon de coiffure, il y en a de nombreux à Montpellier, mais on va dire que le tien a cette particularité d'organiser donc cette mini concert de jazz. Et donc, ça se déroule à Saint-Denis. Et tu peux rappeler l'adresse du salon?
Alors, nous, le salon, c'est Studio 54. Et donc, effectivement, c'est dans la rue Saint-Denis, au 10 de la rue Saint-Denis, qui est en face de la poste quartier Rondelet.
Donc voilà, ceci étant dit, on va quand même revenir sur ce concert qui a eu lieu samedi. Et peux-tu me dire quelle est la capacité d'accueil du salon dans ce cadre-là?
Alors dans ce cadre-là, on le limite volontairement pour que les gens puissent être à l'aise. Donc là, on l'avait limité à 17 personnes, plus nous évidemment, Isabelle, mais à 17 spectateurs. Donc pour que tout le monde puisse être à l'aise, parce que nous on a un mobilier Louis XVI, donc chacun avait son fauteuil, son fauteuil Louis XVI pour pouvoir être assis, il y avait un apéritif, des petits fours, des petits gâteaux, des boissons à consommer avec et sans modération pour certaines. Donc voilà, oui, au moins c'était un cadre, il n'y avait pas de, comme on dit, de chaise aveugle ou autre, tout le monde avait accès à 5-6 mètres à Isabelle pour pouvoir voir Isabelle jouer de ce magnifique instrument.
Alors, je disais, et tu disais que Isabelle, c'est Isabelle Olivier qui est une harpiste, et tout à fait, là aussi, un instrument pratiquement anachronique dans le jazz, ou peu usité, on va dire. Et là aussi, et puis on le verra au cours de l'émission, j'ai un petit cadeau pour toi. Figure-toi qu'on aura Isabelle en direct au téléphone.
Ah, quel plaisir.
J'imagine que les retrouvailles ne seront pas pleines d'émotions, mais pleines de surprises, on va dire.
Tout à fait.
Alors, donc, cette volonté de programmer Isabelle Olivier, qui, je le disais, fait partie des grandes harpistes sur la scène jazz, et Dieu sait si elles sont peu nombreuses, ça tient au fait également à la structure du salon qui fait qu'on ne pourrait pas envisager, par exemple, on va dire, un quartet habituel ou même un trio, piano, basse, batterie, il n'y a pas la place.
Non, effectivement, la place n'est pas là. Et après, c'est que c'est pas forcément, enfin, dans l'esprit que j'avais, c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir travailler avec Isabelle là où j'étais avant, dans une autre association. Et pour moi, c'est vrai qu'elle a sa place, elle est très bien avec d'autres instruments, mais elle a sa place seule et que les gens puissent vraiment découvrir cet instrument qui est peu connu pour le grand public, du moins, surtout dans cette catégorie de jazz. Et Isabelle, en plus, a quand même un relationnel avec le public ou autre très particulier, très proche. Donc, pour moi, elle mérite d'avoir sa place seule chez nous.
On va le vérifier. Isabelle ?
Oui ?
Bonjour.
Bonjour.
Donc j'ai voulu faire la surprise à Guillaume en t'invitant téléphoniquement. Et effectivement, il faisait part de ce feeling qui vous relie maintenant depuis quelques années. Et bien sûr, tu es une artiste internationalement connue. On va dire que dans le domaine de l'harpe, Sauf erreur de ma part, les artistes les plus connus sont peu nombreuses. À part Dorothy Ashby et peut-être Alice Coltrane, à première vue, c'est les deux grandes que je vois. En vois-tu d'autres ?
Ah ben, Harpo Marx, quand même.
Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et puis, peut-être le sais-tu, parce qu'il y en a une qui est un peu moins connue, mais qui a quand même son heure de gloire, c'est Janet Pullman, tu sais, qui a fait partie de l'orchestre de Gil Evans avec notamment Miles Davis, quand même. C'est pas n'importe
bien
quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a eu aussi Adèle Gérard, qui était une formidable harpiste. Hein. Et il y a Casper Reardon, hein, qui est un harpiste qui était à l'époque du New Orleans et qui faisait des breaks de solo dans des chansons. Et voilà, je crois que c'est finalement un instrument peu connu, mais en même temps qui a existé sans qu'on s'en aperçoive, on va dire.
Non, c'est vrai que, et puis j'ai quand même regardé un peu dans ce qui se passait dans le domaine du jazz, on a aussi pas mal de harpistes japonaises. Est-ce que tu as constaté ça ? Et toi qui voyages beaucoup, tiens, on va poser la question directement, parce que faut-il rappeler que je disais que tu étais une artiste internationalement connue, on va pas faire le tour des pays où tu t'es produite, sinon...
Je crois qu'il y en a 22, je crois.
Bon, donc on n'aura pas le temps durant l'émission, on va essayer de faire bref. Et par conséquent, as-tu constaté effectivement ce phénomène de la harpe présente dans le jazz, notamment au Japon ?
Alors, figure-toi que je suis maudite avec le Japon. J'ai deux tournées qui ont été annulées. Et donc, je ne suis jamais allée jouer au Japon. Je suis allée jouer en Corée du Sud. J'ai eu la chance d'accompagner Yoon Sun-ha, qui est une chanteuse absolument extraordinaire. Et en Corée du Sud, en fait, l'harpe n'est pas très répandue et encore moins dans le jazz. Maintenant, au Japon, je sais qu'il y a de l'harpe, mais je ne l'ai encore jamais constaté. Donc, j'attends d'y aller et que je vous raconterai après.
Tu me parlais de Yoon Sun-ha. Puis-je rappeler malgré tout que tu l'avais déjà rencontré lors de ton premier album en tant que leader ?
C'est pas mon premier album. Hein,
non, en tant que leader, je parlais. Parce que
non,
tu en avais fait un avant ?
Bah, en fait, tous les albums, j'ai été leader, parce que même du côté, quand j'ai sorti le premier disque d'Océan, c'était quand même moi qui était à la tête du groupe.
D'accord.
Maintenant, mon premier album, on va dire solo, mais c'était pas un vrai solo, parce qu'il y avait une partie solo acoustique, une partie solo électronique. C'était Island 41, et le disque avec Yoon Sun-ha, c'est une série de duos où il y avait Peter Erskine, où il y avait Louis Cavis.
Oui, c'était My Foolish Harp, c'est ça.
Voilà, My Foolish Harp, et donc ça en fait, c'est l'avant-dernier, donc celui qui était avant Dodécason, ce qui est le dernier que tu as,
oui.
Grâce à Guillaume.
Voilà, mais justement, moi je voulais quand même te demander comment une harpiste... qui au départ, peut-être dis-je une grosse bêtise, a forcément fait des études de musique classique, en arrive à se produire en jazz.
Alors déjà, il faut te dire que je suis tombée amoureuse de l'harpe grâce à Duchesse des Aristochats de Walt Disney. Et que Duchesse, hein, si tu regardes, eh ben, joue du jazz. Voilà. Donc j'ai commencé à demander l'harpe quand j'avais 4 ans, et finalement, je crois que ce marrainage m'a un petit peu suivi toute ma vie. Et quand j'ai rencontré le plus grand maître de harpe, qui était Pierre Jamet, qui avait travaillé avec Debussy, Ravel, Stravinsky et bien d'autres compositeurs du XXe siècle, au bout de 3 minutes où j'ai joué un thème et variation de Haydn, il m'a dit « Toi, tu vas faire un truc que personne ne fait ». Donc voilà, je crois qu'il avait quand même bien vu. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer les frères Moutin, Louis et François. Et un jour, ils m'ont demandé de prendre l'harpe et de venir jouer avec eux, avec Sylvain Boeuf. Et ça a donné pour moi une épreuve de grande solitude, où je n'étais plus capable de faire une note toute seule en improvisation, alors que petite, j'improvisais sans problème sur ma musique classique. Et je me suis dit, bah, comment faire ? Et au bout de 10 minutes, il m'a dit, mais vas-y, joue. Et j'ai fait gling, et il a fait waouh. Voilà, comment ma vie a bifurqué. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on a commencé à faire un quartet. Et puis, au premier concert, les gens ont été très enthousiastes sur le fait que c'était vraiment intéressant, que la musique était intéressante. Et puis, l'aventure a continué. Donc, me voilà toujours sur la route du jazz.
C'est parfait. Alors, je crois, mon petit doigt m'a dit que tu préparais, et tu es, je crois, en studio d'enregistrement peut-être, tu travailles autour d'un opéra, c'est vrai ?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que je suis partie d'un livre qui m'avait énormément plu quand j'avais 11 ans et qui, quelque part, me suit tout au long de ma vie, qui s'appelle « Le Baron Perché » d'Italo Calvino. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui, devant un plat d'escargots que lui servent ses parents, va dire « Non, je ne mangerai pas des escargots, et puisque c'est comme ça, je vais vivre dans un arbre. » Et donc, c'est son frère qui raconte sa vie et son périple des natures tout en gardant un contact réel avec la civilisation. Et je suis partie à Chicago, qui pour moi représentait cet alliage de civilisation et de nature grâce au lac Michigan. Et donc j'ai commencé à faire un projet franco-américain, à la fois en France et à la fois aux États-Unis. Et donc là, au printemps, on enregistre la première version instrumentale de l'opéra. Et puis en 2015, il y aura 4 chanteurs de Chicago. Et puis en 2016, si tout va bien, on fera avec Big Band et chœur. Voilà, donc je suis partie dans une grande aventure.
Grand projet, grand projet exceptionnel, on peut le dire. Alors, Guillaume me faisait part également qu'il envisage de reproduire ta prestation au cours de l'année 2015. Est-ce que, bien sûr, alors faut-il rappeler que cette prestation, volontairement, tu l'as fait en solo, c'est-à-dire uniquement avec ton instrument?
C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai rencontré Guillaume il y a 4 ans, il y a quelque chose qui s'est passé parce que c'est quelqu'un qui effectivement allie une grande humanité, on va dire, et une vraie ouverture aux autres, et en même temps un projet, on va dire, assez original. À l'époque, c'était de faire un marché artisanal un peu au milieu de nulle part, mais en même temps, il y avait des gens qui passaient, et j'avais trouvé quand même que c'était une belle aventure que de jouer. Et le salon de coiffure, l'atelier 54, hein, c'est vrai que c'est un salon de coiffure, et en même temps, il règne une ambiance très particulière. Donc, moi qui suis en recherche justement d'endroits atypiques pour, faire découvrir l'harpe à des gens qui n'iraient pas forcément m'écouter en concert, c'est un lieu qui, tous les ans, effectivement, ça fait 2 ans que j'y ai joué, et à chaque fois, on a beaucoup d'émotions les uns et les autres, parce qu'il se passe là quelque chose qui ne se passe pas dans un concert dit traditionnel. Donc moi, forcément, je vais jouer autrement parce que je suis dans un cadre qui ne ressemble pas aux autres. Et je pense que le public qui fait cette démarche de venir le soir dans un salon de coiffure où ils viennent la journée attend quelque chose d'exceptionnel. Et on essaye avec Guillaume et Eddy de leur préparer chaque année quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai qu'on a commencé une boutade en se disant que tous les ans on allait faire ça, mais je crois qu'on est bien parti pour.
Guillaume, c'est une boutade qui perdure alors?
Tout à fait, tout à fait. On espère que voilà, de 2015, Isabelle va nous trouver un petit créneau, puisqu'il semblerait qu'elle nous ait promis une exclusivité Montpellier-Rennes intramuros. Donc,
bon.
On compte sur Isabelle pour l'exclu 2015 Montpellier intramuros. Et puis voilà, on sera parti après pour 2016 et la suite.
Alors, je vais poser une question très directe à Isabelle. Isabelle, si toutefois tu viens en 2015, et bien entendu, nous ne retransmettrons pas le concert en direct parce que nous n'en avons pas le droit, sauf avec ton accord, est-ce que tu nous autoriseras, nous, à Divergence, de venir capter ne serait-ce que, 3 minutes?
Bien sûr, parce que je crois que c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un lieu tel que l'Atelier 54. Hein, c'est l'ouverture et la découverte, je pense, pour les Montpelliérains, d'un endroit qu'ils ne connaissent pas forcément encore, mais qu'ils vont avoir envie de découvrir en se disant « il se passe là des choses qui ne se passent pas dans notre salon de coiffure de quartier ».
Et bien voilà, Guillaume, tu vois, tout est pratiquement calé pour l'année prochaine.
Voilà, il n'y a plus qu'à trouver la date.
Studio 54, Olivier, Isabelle, Olivier et nous, ça y est, tout est prêt, on est fin prêt, nous.
Il n'y a plus qu'à organiser le mariage, c'est bon.
Il n'y a plus qu'à organiser le mariage, comme tu dis. Alors, Isabelle, malheureusement, le temps passe et puis on va quand même faire un petit cadeau aux auditeurs, puisque, effectivement, Guillaume nous a amené ton dernier album. C'est lui qui a fait la sélection du morceau. Le morceau s'intitule
GPS.
Extrait de l'album
d'Aude de Gasson. Et donc, elle a joué, Isabelle, effectivement, il lui a été demandé de jouer 2 fois ce morceau samedi. L'année dernière, ça avait été le cas, il avait fait l'unanimité. Et nous, c'est qu'à chaque fois qu'Isabelle part dans la voiture, pendant quelques jours, pour garder cette atmosphère bien présente, on remet ce morceau sur le chemin du salon en partant, parce qu'on a une demi-heure de route. Donc, on a le temps d'écouter en venant et en partant du salon pour garder un peu cette atmosphère, on va dire, privée avec nous. C'est un petit morceau d'Isabelle avec nous et en attendant l'année prochaine.
Eh bien, malheureusement, Isabelle, on va devoir se quitter en écoutant ce morceau. Il me reste à te remercier vraiment de ton amabilité, car je sais que tu es en studio d'enregistrement. Guillaume, merci d'être venu nous voir, d'apporter aux Montpelliérains cette opportunité de découvrir un instrument. Nous, on l'écoute ici, et puis on se revoit donc l'année prochaine.
Merci beaucoup et un gros bisou à Isabelle.
Allez, gros bisous à tous. À bientôt.
Merci. Troisième plateau tout aussi différent que les deux premiers. Le premier, je vous le rappelle, traitait donc du jazz dans un salon de coiffure assez inhabituel. Le deuxième, vous l'avez entendu à l'instant, c'était dans la Ligue des droits de l'homme. Et puis le troisième est tout à fait différent, puisqu'en fait, il s'agit d'une performance qui aura lieu ce soir à 19h, donc au Centre culturel du CHU de la Colombière à Montpellier. Et auprès de moi, et vraiment tout près de moi, Talou Coron, qui est donc la plasticienne qui va donc officier pour cette performance. Talou, bonjour.
Bonjour.
Et donc, je disais que vous étiez plasticienne. Alors, pouvez-vous nous expliquer que sont vos œuvres, tout au moins celles qui seront présentées à compter de ce soir?
Bon, en fait, effectivement, je suis plasticienne, mais le travail que je présente dans cette exposition, c'est un travail de sculpture céramique. Voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire.
Alors, quelles sont les cordes à votre arc? En dehors de la céramique?
Eh bien, moi, j'ai commencé mon parcours en étant peintre. Puis, j'ai instauré un concept que j'ai appelé le croquis-reportage événementiel que j'ai pratiqué pendant une dizaine d'années et je continue d'ailleurs à l'occasion. J'ai été styliste aussi. Aujourd'hui, je suis aussi photographe et sculpteur, céramiste. Voilà.
Et donc, vous avez souhaité, ou est-ce le CHU qui l'a souhaité ainsi, que durant cette exposition, et notamment ce soir, viennent se greffer pour illustrer un peu vos œuvres, la compagnie de danse de Yann Lereux?
En fait, c'est moi qui en ai eu l'envie et l'idée. Et comme Yann et moi, on se connaît depuis très longtemps, et il y a une très jolie amitié qui nous lie, je lui ai simplement demandé, c'est quelque chose dont j'avais envie depuis très longtemps, de pouvoir mêler donc, mon travail de sculpture avec d'autres formes d'art aussi.
C'est vraiment très original parce que c'est vrai que la compagnie Yann Lereux, on la connaît pour ses flash mobs dans les lycées. Mmh. Mais est-ce la première fois que vous collaborez dans un événement aussi particulier?
Avec Yann?
Oui.
Oui, si ce n'est qu'avec Yann, je lui ai aussi conçu et fabriqué des costumes pour certains de ses spectacles il y a quelques années de ça. Mais à part ça, effectivement, c'est une grande première là, pour nous ce soir.
Un peu d'angoisse?
Non, juste de l'excitation.
Ah ben c'est merveilleux de voir des artistes aussi épanouis qui ne se posent même pas la question de savoir si ça va être forcément une réussite.
Bah oui, bah alors, oui puisque tout le monde en a envie, donc forcément ça ne peut être que bien.
Très bien. Et peut-on dire qu'au-delà de cette prestation un peu exceptionnelle, vous avez d'autres opérations à titre personnel en vue?
Pas pour l'instant de manière concrète, mais il y a des projets effectivement. Une chose qui me tient à cœur, c'est aussi de pouvoir proposer des événements artistiques dans des lieux qui ne sont pas forcément des galeries d'art ou des lieux prévus à cet effet, pour surprendre et toucher les personnes aussi de par le décalage et vraiment créer quelque chose qui ait du sens.
Et considérez-vous que ça pourrait être un handicap que ce type de prestation, parce que ce que vous faites ce soir, est-ce que cela peut être reproduit ailleurs?
Absolument. Et puis, sous plein d'autres formes aussi, je suis aussi en train de rencontrer d'autres artistes, en l'occurrence un jazzman suisse qui fait des prestations comme ça, face à des œuvres. Donc, il y a plein de projets, plein d'envies et plein d'idées surtout.
Alors donc, c'est vraiment des projets naissants, on va dire, aujourd'hui, avec d'autres projets qui vont arriver tout aussi fabuleux. Et puis, j'ai un petit cadeau pour vous, parce qu'on a eu la chance d'avoir Yann Lereux au téléphone hier, et voici ce qu'il nous a dit par rapport